Cette semaine, Anaëlle Pijat rencontre Alain Fleischer. Ce soir, filmé pour voir.
Bonsoir Alain Fleischer. Merci de nous accueillir à nouveau ce soir dans votre bureau du Frénois, Studio National des Arts Contemporains, l'école d'art que vous avez créée en 1997. On a parlé de ce lieu comme d'une Villa Médicis high-tech, d'un Bauhaus du numérique. Le cinéma y occupe une place centrale dans les intérêts et la formation des étudiants, parmi aussi les professeurs évidemment et intervenants invités. Cela tient sans doute au fait que dans votre vie et dans votre œuvre, le cinéma a toujours été un cœur battant. Vous faites des films depuis plus de 40 ans, vous en avez réalisé plus de 350. C'est ce dont je voudrais que nous parlions aujourd'hui. Alors reprenons le fil de votre vie là où nous l'avions laissé hier, pour en venir à votre formation intellectuelle à l'université. Cette formation, vous l'avez choisie très large, en sciences humaines, sémiologie, anthropologie, linguistique, bien loin d'une école d'art.
Oui, en effet. En fait, pour être précis, j'ai commencé par des études de lettres. Et puis, j'avais le regret d'avoir totalement abandonné les disciplines scientifiques. Donc j'ai voulu, faute de pouvoir entreprendre des études de mathématiques ou de physique pour lesquelles je n'étais pas préparé, me replonger dans quelque chose qui a une dimension scientifique. Donc la linguistique m'a semblé passionnante à l'époque. C'était les grands moments du structuralisme, de Barthes, de Martinet, de Jacobson, de Chomsky, et puis de Lévi-Strauss pour l'anthropologie. Il y avait une espèce d'effervescence incroyable dans la jeunesse estudiantine pour ces disciplines. Les amphithéâtres de la Sorbonne étaient archi pleins pour un cours de phonologie ou de syntaxe d'André Martinet, qui sont des disciplines extrêmement ingrates. Les gens étaient assis par terre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a maximum 5 personnes pour un cours de ce genre. Donc je me suis passionné pour ces disciplines. Je n'ai jamais été tenté par des études de cinéma ou d'art. J'ai voulu passer à l'acte directement. Donc le cinéma, j'ai pensé qu'il suffit que j'ai une caméra pour que je sois cinéaste, que c'est la caméra qui qualifiait le cinéaste. Donc je me suis procuré un jour une caméra et je suis devenu cinéaste comme ça. J'ai rien appris. Je suis allé au cinéma, par contre. J'allais à la Cinémathèque, bon, voilà. En tout cas, mes études, je les ai consacrées aux sciences humaines avec passion. Je suis allé de plus en plus loin dans l'aspect scientifique. À partir des lettres, je suis passé à la linguistique. Des linguistiques, je suis passé à la sémiologie. Et en sémiologie ou en sémantique, j'avais le choix entre deux pistes. La sémiologie ou la sémantique littéraire, celle de Roland Barthes, que j'ai fréquentée, dont j'ai été l'étudiant, et puis celle beaucoup plus rigoureuse et scientifique de Grémas. Tout ça à l'école des hautes études. Et donc j'ai suivi Grémas, c'est avec lui que j'ai fait un doctorat dans une discipline comme ça très rigoureuse, et j'ai fait une étude sémiologique des règles des jeux de ballon, dont le football évidemment au centre de tout, qui était en fait des travaux sur la sémiologie de l'espace. Qu'est-ce que c'est qu'un espace réglementé pour faire un sport comme le foot? Je me suis rendu compte en fait que les règles d'un jeu comme le foot, ce sont des séries d'interdictions et de punitions. Et en réalité, ce que j'ai tenté de démontrer, c'est que si on livrait les règles de jeu du foot à une société qui n'a jamais vu une partie de football, elle serait incapable de reconstituer le jeu. C'est-à-dire que ces règles ne sont pas du tout un programme qui pourrait générer une partie de football, mais voilà, c'est une série de descriptions de l'espace, de zones dans l'espace, d'interdictions, d'autorisations et de punitions. Donc voilà, tout mon travail a porté sur ça, et évidemment, c'est une piste, je dois dire, à regret de la sémantique structurale qui est devenue un peu une impasse. Le fantasme de Grémas, c'était la physique. Il voulait que sa science sémantique ou sémiologique soit aussi rigoureuse que la physique. Mais au-delà de ses travaux, qui sont impressionnants, il n'y a pas eu beaucoup de suites.
Assez rapidement, vous avez commencé à faire des films vous-même. Vous parliez de votre première caméra. Qu'est-ce qui vous a conduit vers le cinéma à ce moment-là?
Alors, ce qui m'a conduit vers le cinéma, c'est que j'allais beaucoup à la Cinémathèque française. Il m'est arrivé de faire la queue derrière Truffaut ou Godard, qui allait aussi voir les films proposés par Henri Langlois. C'était le lieu où on apprenait le cinéma. C'est le lieu où toute la nouvelle vague a appris le cinéma. Ils ont pas fait des écoles comme la Fémis ou autre. Donc j'étais là, parmi des gens d'une génération un peu plus âgée que la mienne, donc les gens de la nouvelle vague. j'allais voir des films et je comprenais en voyant ces films, y compris des grands chefs-d'œuvre admirables. Je voyais tous les grands classiques, Eisenstein, Murnau, Ziga Vertov, Berman, etc., que quand même, on pouvait inventer quelque chose encore en cinéma, on pouvait dire des choses nouvelles, ce qui me semblait impossible en littérature. J'ai longtemps été bloqué, comme je disais, par les grandes figures de littérature. Alors qu'en cinéma, au-delà des très grands cinéastes, je voyais qu'on pouvait encore explorer ce langage, lui faire dire des choses. Notamment, j'étais très intéressé par la théorie du montage. Le premier film que j'ai fait, qui était un film très expérimental, s'appelait d'ailleurs Montage 4. Et j'avais été aidé par, soutenu par Jean Rouche pour faire ce film, mais par un très grand producteur avec qui j'ai travaillé ensuite et jusqu'à me fâcher avec lui, qui s'appelait Anatole Dauman, qui avait produit tous les films de Godard, de Bresson et de quelques autres très grands cinéastes. Donc, j'ai senti que j'avais envie de faire des films parce que j'avais des idées pour faire des choses différentes de ce que je voyais dans les grands classiques. Et j'ai pas eu envie d'apprendre, j'ai pas eu envie d'être assistant ou d'aller dans une école de cinéma. Je me suis dit que le plus simple était de m'acheter une caméra, comme on s'achète un stylo, et de commencer à filmer. Ce que j'ai fait, il se trouve qu'à ce moment-là sont arrivés les événements de mai 68, et que s'est créé un organisme, c'était le seul résultat d'ailleurs de tout ce qu'on a appelé les états généraux du cinéma, s'est créé un organisme qui s'est appelé le GREC, groupe de recherche et d'essais cinématographiques, destiné d'abord à aider le cinéma politique, et puis au-delà, le cinéma expérimental. J'étais le premier bénéficiaire d'une bourse du GREC, qui m'a été attribuée donc par un jury qui comportait Jean Rouche, Dauman, Carlos Villard-Debeau et Jean-Louis Comolli, qui venait des Cahiers du cinéma. Et j'ai fait ce film avec mes moyens. J'allais acheter la pellicule à la FNAC. À l'époque, on pouvait acheter de la pellicule chez des commerçants, chez des négociants. C'est bien impossible aujourd'hui, mais aujourd'hui, bon, la vidéo a tout remplacé. Et j'ai fait ce film, voilà, en faisant des petits boulots pour acheter la pellicule, pour la porter au labo. Et je l'ai fait dans une totale liberté d'écriture. Enfin, c'était du cinéma complètement marginal. Mais ce film m'a ouvert les portes du cinéma, du cinéma professionnel, puisque il était présenté par Langlois à la Cinémathèque française, dans une salle où étaient présents tous les grands personnages du cinéma français, les acteurs, les producteurs, les distributeurs. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé, Anatole Dauman m'a proposé de faire un film plus traditionnel. Et c'était mes débuts dans le cinéma.
Pour ce qui concerne ces premiers moments encore, je crois que tout le mouvement du cinéma underground new-yorkais vous a extrêmement marqué. Mais ça n'est pas à New York, c'est aussi à la Cinémathèque que vous l'avez découvert.
C'est tout à fait exact. Et Langlois avait ce génie d'être à la fois un grand connaisseur du cinéma des grands classiques, mais aussi extrêmement curieux de ce qui se passait dans les marges. Par exemple, c'est à la Cinémathèque que j'ai vu les premiers films de Garel, qui était un peu quelqu'un de ma génération. Et c'est là aussi que j'ai vu les premiers films d'Andy Warhol et des frères Mekas, de Kenneth Anger et d'autres. Et effectivement, c'est à la Cinémathèque que j'ai découvert le cinéma expérimental américain, New York Underground, qui m'a sûrement influencé. Et d'ailleurs, ce qui était assez joli, c'est que j'ai eu une rétrospective de mes films à New York, chez Mekas, dans cet lieu qu'il a créé, qui s'appelle Anthology Film Archives. Et donc, il m'avait repéré peut-être comme un cinéaste qui avait une dette envers le cinéma new-yorkais.
Vous parliez de Philippe Garrel, vous étiez proche de ce groupe de cinéastes?
Non, j'étais proche par, disons, les modes de production. On était marginaux, on produisait en bricolant, en trouvant des appuis à droite ou à gauche. Mais je n'étais pas proche de son esthétique. J'étais plus dur, je dirais. J'étais plus expérimental. Lui, quand même, avait développé une grande dimension poétique. Je l'ai connu longtemps après. Je l'ai même invité à être prof au Frénois. Il n'a pas pu accepter parce qu'il était très occupé quand j'ai fait ma proposition. Mais enfin, j'ai beaucoup de sympathie et d'estime pour ses premiers films. Je me sens moins proche de ses films plus récents, qui sont devenus plus, je dirais, plus traditionnels. Mais ses premiers films, qui étaient des poèmes cinématographiques, m'avaient beaucoup plu. Et d'ailleurs, quand Langlois a présenté mon film à la Cinémathèque, il a dit qu'il y avait deux cinémas expérimentaux en France, celui de Philippe Garrel, qui prolongeait la tradition française, donc je sais pas, de Vigo et d'autres, et moi qui prolongeais peut-être la tradition américaine.
À cette époque-là, dans cette fin des années 60, ce début des années 70, il y a aussi un certain nombre d'artistes, on dirait aujourd'hui de plasticiens peut-être, qui se sont emparés de ces premières caméras portables, la Portapack notamment, qui étaient disponibles sur le marché. Je pense par exemple à Christian Boltanski. Je crois que vous avez aussi découvert les films de Christian Boltanski à ce moment-là, que vous avez rencontré Christian Boltanski à ce moment-là. On a l'impression peut-être que votre cinéma se rapprochait alors davantage des pratiques de ces artistes plutôt que des pratiques des cinéastes. Dans le sens plus commun du terme.
Tout à fait. J'ai beaucoup fait ce qu'on appelait à l'époque des films d'artistes. Je ne sais pas si on les appelle encore comme ça. D'abord, bon, j'ai fait le premier film sur Christian Boltanski en 16 mm noir et blanc. On avait un contrat. J'avais la clé de l'appartement où il habitait chez ses parents à Paris. Et j'étais supposé pouvoir débarquer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et filmer ce qu'il aurait fait ou ne pas fait, puisqu'il me racontait qu'en fait, il ne faisait rien, que c'était un paresseux qui passait son temps à réfléchir à des projets et que bon... On a commencé à faire ce film et puis on s'est rendu compte que c'était un peu triché parce que finalement, comme quand j'arrivais, il ne faisait rien, j'en étais venu à lui téléphoner pour dire « Écoute, j'arrive, donc essaye de faire quelque chose ». Donc en tout cas, j'ai fait le premier film sur lui et je l'ai aidé à faire ses premiers films. On avait une sorte d'accord et il m'avait... Enfin, je lui avais acheté des tableaux qu'il avait exposés au cinéma, le Ranelagh, où je l'ai découvert.
Je lui avais acheté en 1968.
1968. Son vernissage devait avoir lieu le 2 mai 68, ce qui n'était pas la date idéalement choisie pour attirer beaucoup de monde. À l'époque, il faisait des tableaux, il peignait d'une façon un peu expressionniste, et il créait aussi des personnages en chiffon, des grandes poupées grandeur nature. J'avais été fasciné en découvrant son travail alors qu'il était en train d'installer une exposition. Un jour, j'étais venu voir une rétrospective de Godard où je m'étais trompé de programme. Donc j'étais allé pour rien, puisque le film qui était programmé, je l'avais déjà vu. Mais par contre, j'ai rencontré Christian. Et a commencé une grande amitié. J'ai voulu lui acheter des œuvres alors que j'avais pas un sou, j'étais étudiant. Il a accepté de me les vendre sans avoir jamais été payé. Et j'ai essayé de le dédommager de ça en l'aidant à faire ses films avec ma caméra, de la pellicule que je trouvais, voilà. Donc une bonne partie de ses premiers films, j'y ai collaboré. Et où je l'ai aidé, par exemple, à faire son film le plus long qui s'appelait... 36 jours qui précèdent à la mort de Françoise Guignou, magnifique film, pour lequel il y a eu une bourse du Grec. Comme j'avais eu moi la première, je l'ai recommandé à Jean Rouch. Et voilà. Donc, avec Christian, j'ai découvert que les artistes pouvaient faire des films. C'est vrai que c'est chez lui que j'ai découvert ça. Et ça a dû m'influencer, même si pendant longtemps, j'appartenais au monde du cinéma et lui, par exemple, au monde des artistes. Et qu'on était assez... Enfin, dans des carrières différentes. J'étais émerveillé qu'il participe à la Biennale de Paris ou qu'il ait une exposition dans une galerie italienne, alors que moi, j'étais dans un autre monde. J'étais pas encore dans le monde de l'art et j'étais vraiment dans une perspective de carrière de cinéaste.
Aviez-vous des liens à l'époque avec Pierre Schaeffer et avec le studio de la recherche de l'ORTF ?
C'est étrange que vous me posiez cette question parce qu'en effet, j'étais approché par Pierre Schaeffer qui m'a même demandé de venir chez lui à l'époque où la recherche était dans le 16e arrondissement. Il m'avait découvert par le film qu'avait présenté Langlois, ce film de montage, enfin de montage, un film tourné, mais avec un travail de montage considérable, 3000 plans, enfin des rafales de plans très courts. Et il crée à cette époque-là, il savait que j'étais l'élève de Grémasse. D'ailleurs, quand il m'a accueilli, il m'a dit « Mais vous vous fourvoyez, tous ces jeunes intellectuels, vous vous trompez totalement en allant du côté de la sémiologie, la sémantique, c'est une impasse, venez plutôt chez moi ». Et il crée à l'époque un programme d'émissions expérimentales qu'il appelait P2. Il s'agissait de disposer de toutes les archives de l'INA, en fait de ce qu'allait devenir l'INA, c'était encore le service de la recherche, et de faire des montages, donc d'utiliser l'archive pour créer des œuvres. À l'époque, j'avais beaucoup d'autres propositions. J'avais notamment celle d'Anatole Demand de faire un premier long métrage de fiction professionnelle avec une équipe, des acteurs, etc. C'était aussi le moment où je pouvais partir faire mon service militaire, en fait, ou l'équivalent service militaire en tant que directeur de l'Alliance française à Bogota, en Colombie. Donc j'avais plusieurs possibilités en même temps. Et j'ai finalement choisi le cinéma. J'ai fait ce film avec ce producteur et j'ai décliné l'offre de Pierre Schaeffer. Mais bon, je l'avais approché, on avait discuté, on avait des conversations intéressantes. C'était un homme très impressionnant et très visionnaire.
Alors, venons-en à ces films qui ont été produits dans des conditions un peu plus confortables au bout de quelques années. En 1971, il y a Les Rendez-vous en forêt. En 1974, il y a Dehors dedans, qui est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs en 1975. Mm-hmm. J'imagine que cette sélection à la quinzaine des réalisateurs a dû beaucoup faciliter la diffusion de ce film.
Ah oui, absolument. Le film a été non seulement sélectionné, mais il a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Un film d'ailleurs aidé par une productrice, Vera Belmont, Stéphane Finn, pour la post-production, mais que j'avais tourné tout seul, avec l'interprète qui était la comédienne avec laquelle je vivais à l'époque, Catherine Jourdan. Ce film a été fait dans une économie presque domestique, dans le lieu qu'on habitait à l'époque, au Quartier Latin. La différence avec d'autres films expérimentaux que j'avais fait, c'est que il faisait une part importante à cette actrice, qui d'ailleurs fait une sorte de performance incroyable dans ce film, d'une liberté, d'une audace d'ailleurs assez impressionnante. Et le film est resté 5 ans à l'affiche d'un petit cinéma du Quartier Latin qui s'appelle Le Seine, à Beaumère Mutualité, en alternance avec India Song de Marguerite Duras. Donc j'ai eu la chance d'être programmé en alternance avec India Song pendant 5 ans dans cette salle. Et sûrement que la sélection à Cannes a été décisive, et puis après le film est allé dans beaucoup de festivals à travers le monde, et puis il m'a valu des propositions pour faire d'autres films.
Au fond, on a l'impression que l'économie de moyens dans laquelle vous l'avez réalisé trouve une sorte d'écho ou a permis la réalisation d'une véritable économie formelle aussi, parce que ce film, c'est un dialogue entre la caméra que vous tenez et cette jeune femme. La scène se passe dans un intérieur, une chambre, avec en arrière-fond une voix qui relie l'histoire de la Révolution française de Jules Michelet.
Tout à fait.
Et au fond, il y a des images qui naissent de cette confrontation, mais qui là encore sont des images mentales.
Oui, c'est un univers mental, même si c'est un univers physique extrêmement concret. En effet, c'est une petite chambre sous les toits au Quartier Latin, où sont en vis-à-vis cette jeune femme qui se livre à une sorte d'érotisme solitaire, très contestataire, très violent, lié à des actions comme ça de provocation, et la caméra. Et puis les seules sorties hors de cet espace clos sont une sorte d'inventaire sous forme presque de carte postale de monuments de Paris qui sont liés à des lieux de pouvoir, l'Assemblée nationale, le Sénat, les grandes ambassades, la Bourse, etc. Donc c'était un film assez provocant, très provocant même sur le plan politique. Et je me souviens qu'à l'époque, une productrice de l'INA m'avait dit « Tu sais, ce film, aussi provocant soit-il, dans 5 ans, il passe à la télé. » Je lui ai dit « Écoute, on peut faire le pari, je suis sûr qu'il ne passera pas à la télé dans 5 ans. » Et en effet, le film n'est pas prêt de passer à la télé. Mais vous avez raison, cette économie extrêmement modeste, marginale, domestique, a incité à des trouvailles de langage, à une écriture. Et je dois dire que je continue à préférer l'écriture libre dans une économie pauvre que l'économie du cinéma avec toute sa lourdeur, l'argent qu'en fait on finit par payer. Parce que d'avoir des moyens, on le paye. D'avoir les moyens de payer une équipe, des acteurs, des moyens techniques, on le paye sur le plan de l'esthétique, de l'écriture et de ce qu'est un film. Donc les films que je préfère sont ceux que j'ai faits avec des moyens entièrement domestiques, donc des films pauvres.
Est-ce à dire que le fait de travailler avec des producteurs par la suite a changé votre manière de faire du cinéma ?
J'ai appris beaucoup de choses en faisant des films produits avec des vrais producteurs, parce que par exemple j'ai tout appris des techniciens. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais fait d'école de cinéma. Mon école, c'était la Cinémathèque française. Mais concrètement, les opérations, je les ai apprises des techniciens. J'ai beaucoup appris des monteurs. Les ingénieurs du son m'ont appris énormément. C'est étrange, mais les ingénieurs du son m'ont beaucoup appris sur l'image. J'ai beaucoup appris quand même des chefs opérateurs. Et donc tout ça, j'ai eu accès quand un film que j'ai fait a été produit. Et que donc des techniciens ont pu être payés pour faire mon film. Sinon, je faisais tout seul. Donc ça m'a beaucoup apporté quand même. Mais j'ai vécu des moments extrêmement durs, quand un producteur n'a plus d'argent, que le film est menacé de s'arrêter toutes les 5 minutes, qu'on vous demande des concessions esthétiques, des scènes plus ceci, moins cela, pour que ça plaise. Alors les producteurs ont souvent le sentiment qu'ils savent ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. En fait, ils se plantent 3 fois sur 4. Donc souvent, ce qu'ils obtiennent de vous sous forme de concessions ne les aide pas à faire marcher un film. Donc c'est une économie très dure, très violente. J'espère encore faire un jour l'expérience d'une production joyeuse, d'une production de cinéma commercial, entre guillemets commercial, joyeuse. Mais bon, jusqu'à présent, je ne l'ai pas faite. J'ai failli j'ai failli faire une mise en scène de La Vie de Sade au cinéma, qui était bien partie, puisque Marlon Brando était d'accord pour jouer le personnage de Sade âgé, que j'avais des grands producteurs. C'était Lebovici, qui était le patron d'Art Media, puis Toscan Duplantier, qui s'est intéressé au projet. Et tout ce projet qui prenait bonne tournure s'est effondré quand Gérard Lebovici s'est fait assassiner dans un parking des Champs-Élysées. Voilà. Et là, j'ai plus le goût de recommencer, de repartir avec d'autres producteurs. Donc ça a mis un terme à mes projets, un terme provisoire, parce que j'ai quand même fait d'autres films ensuite, avec des moyens, disons, commerciaux normaux. Mais les grands projets se sont arrêtés là. Je ne désespère pas d'y revenir, parce que finalement, ce projet, je l'ai publié sous la forme d'un scénario. Voilà, sous forme d'un livre.
Sad scénario.
Sad scénario, voilà. J'ai fait après un film plus heureux, qui est dans le prolongement de mon séjour à Rome, qui s'appelle Rome Roméo, qui est un film fait voilà, à la Villa Médicis et quelque part dans quelques autres lieux à Rome et en Italie. Et là, c'est une expérience assez joyeuse, puisque j'avais un producteur qui n'avait pas beaucoup de moyens, on avait l'avance sur recette, on a fait le film pratiquement seulement avec l'avance sur recette. Et du coup, on avait à la fois les avantages d'une production réelle, professionnelle, et les avantages d'un cinéma dont l'économie était légère.
Je pensais justement à Rome Roméo ou encore à Zozero, le film que vous avez tourné en 1979, dans lequel vous avez fait appel à des acteurs professionnels, à Pierre Clémenti, à Klaus Kinski, et puis dans Rome Roméo, il y a aussi Yann Colette. Vous avez aimé la direction d'acteurs ?
Je dois avouer à ma grande honte que c'est peut-être l'aspect du travail du cinéaste qui m'intéresse le moins. Et je pense que c'est une faiblesse, parce que les acteurs sont essentiels dans un film, et il faut qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient justes. Je dois avouer que j'ai plus de facilité à travailler avec des amateurs. Bon, il y a un grand maître, en l'occurrence, c'est Bresson, qui n'a travaillé qu'avec des comédiens débutants ou amateurs. Ça m'est plus facile de trouver des personnages parmi des inconnus, en tout cas, que de travailler avec des acteurs qui arrivent avec leur personnalité, leurs personnages et leurs exigences, leurs caprices aussi. Parfois, les acteurs peuvent être insupportables. J'ai vécu avec une actrice, donc je connais bien ce milieu, je connais bien ce genre de tempérament. Ça n'a pas été... Alors, avec Catherine Jordan, c'était magnifique parce qu'on était un couple et qu'on vivait notre intimité, que là, on avait une relation qui était autre que celle d'un metteur en scène à son interprète. Mais sinon, mes enjeux dans le cinéma sont peut-être principalement ailleurs que dans la direction d'acteur. La direction d'acteur, en gros, ça m'amène trop au théâtre. Et pour dire des choses autrement, par exemple, je préfère de loin filmer la danse, c'est-à-dire des corps muets, que des acteurs qui parlent. Filmer la danse, c'est vraiment filmer des corps. Et filmer des acteurs, c'est filmer de la parole, depuis que le cinéma est parlant.
Et la logique d'une équipe, d'une troupe au cinéma, ce travail collectif, c'est quelque chose qui...
Alors, ça peut être très bien si l'équipe est chaleureuse, complice, partage le projet, ne souffre pas d'une économie trop sévère. Comme je le disais, j'ai beaucoup appris des techniciens. Quand ça se passe bien, c'est génial, mais finalement, ce que je préfère, c'est de tenir la caméra moi-même. Parce que la seule personne qui voit vraiment le film qu'on tourne, c'est le cadreur, c'est celui qui a l'œil dans l'œilleton. Les autres n'ont que des rapports qu'on lui fait. Le cadreur peut dire « ouais, c'était bien, elle était bien » ou « le mouvement de caméra était pas mal, mais je suis allé un peu trop loin » ou « il y a eu un à-coup ». Donc la seule personne qui voit le film en train de se faire, c'est celui qui est à l'œilleton. Et ça reste la position que je préfère. Donc tous les intermédiaires, j'en suis jaloux. Je suis jaloux du cadreur, je suis jaloux de l'ingénieur du son qui a entendu ce qui s'est dit ou ce qui s'est passé. Mais en même temps, j'apprends beaucoup d'eux et je continue, dans l'économie dans laquelle je vis actuelle, qui est plutôt celle du cinéma documentaire, à avoir des complices très chers, qui me sont très chers, qui me sont très précieux, parmi les techniciens.
Alors justement, vous parlez de ces films documentaires. À partir du moment où vous avez ouvert Le Frénois, en 1997, vous avez en quelque sorte arrêté de faire des films de fiction pour vous tourner vers le documentaire. Est-ce que le documentaire demande moins de concentration ? Vous aviez moins l'esprit libre et c'était plus facile ?
Disons que le documentaire, ayant une économie plus légère, un film documentaire, ça coûte moins cher qu'un film de fiction, il y a aussi moins de contraintes. Il était impossible que j'envisage de monter des films de fiction en risquant de devoir dire un jour au producteur, ah ben non, demain il faut que je sois au Frénois parce que j'ai une réunion ou j'ai une obligation. Donc quand on fait un film de fiction, on doit être absolument disponible 24 heures sur 24 et toute l'année vis-à-vis des gens qui s'engagent pour vous, qui prennent des risques pour vous, qui sont vos collaborateurs, qui prennent des risques financiers. Donc il faut une disponibilité totale et assez longue, parce que un long métrage de fiction, c'est l'écriture du scénario, c'est ensuite la préparation du film, le casting, les repérages, puis le tournage, puis le montage, toute la post-production, et puis la diffusion du film. Le documentaire, c'est beaucoup plus léger.
La plupart de vos documentaires portent sur des artistes. Vous avez fait un portrait d'Anthony Caro, vous avez fait un film sur Rodin, un film sur Eugène Leroy, sur Jean-Jacques Lebel, vous en parliez, sur Pierre Klossowski. Au fond, on a l'impression que vos films sont souvent des exercices d'admiration, presque une manière de regarder un peu différemment des choses que vous aimez.
Ce sont des exercices d'amitié. D'amitié, de complicité, d'admiration, on peut le dire, oui, et de découverte. Parce que bon, j'ai filmé des artistes, certes, et toujours des artistes que j'aimais, dont j'aimais être proche en faisant quelque chose avec lui, d'ailleurs, ou avec eux. Ce que je préfère dans l'amitié, c'est des choses qu'on produit ensemble, qu'on fait des projets qu'on réalise ensemble. Donc travailler sur des artistes pour des films, c'était le meilleur de l'amitié pour moi. Mais j'ai aussi fait des films sur des lieux d'art, les musées. J'ai beaucoup filmé les musées, le Louvre, le Centre Pompidou, j'ai filmé plusieurs fois, tous les grands musées de la région, par exemple. Le Louvre-Lens, j'ai filmé toute l'histoire du Louvre-Lens. De filmer un musée, c'est la meilleure façon de le connaître. J'avais beaucoup visité le Louvre dans ma jeunesse, mais je ne l'ai jamais mieux connu que quand j'ai fait un film sur le Louvre. Quand j'ai fait un film sur le Louvre, alors là, j'avais l'impression de connaître le Louvre mieux que les conservateurs. Donc le cinéma est aussi un moyen de connaissance, de découverte, puis même de l'histoire. Par exemple, quand je fais récemment un film sur le Louvre à Abu Dhabi avec Jean Nouvel, qui est un ami extrêmement proche, j'ai pu suivre tout ce qui est l'histoire d'un grand projet d'architecture. Et en fréquentant quelqu'un comme Jean Nouvel ou Bernard Tchoumi, quand on a fait le Frénois ensemble, j'ai eu l'impression d'apprendre l'architecture. Donc ces études que je n'ai jamais faites en architecture, ben je les ai faites autrement, en faisant des films avec des architectes.
Merci Alain Fleischer pour cette promenade dans votre monde cinématographique. Demain, nous nous retrouverons pour un autre tour d'horizon avec d'autres images photographiques, cette fois, un autre pan de votre pratique artistique.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Anaël Pija avec Alain Fleischer. À voix nue, réalisation Rafik Zénine. Prise de son, Marc Garvenès. Coordination, Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.